tete ya mazingira. Sikiza tete ya mazingira.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois à suivre ce podcast TTT Amazingira sur la gouvernance des ressources naturelles. Aujourd'hui, dans le cadre de la vulgarisation de la loi Pygmée, appelée autrement la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, nous recevons pour vous Diel Montiré. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes les responsables du programme intégré pour le développement du peuple pygmée au Kivu, Chirika, la Bambouti, PIDEP. C'est 19 juin 2023 à Goma, dans l'est de la RDC. Vous avez organisé un atelier de partage d'informations sur la criminalisation et la vulgarisation de la loi Pygmée en RDC. Avec cette nouvelle loi en RDC, qu'est-ce que cela apporte pour vous?
Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, on doit remercier le gouvernement congolais qui a pris conscience et qui a honoré ses engagements au niveau international de mettre en place un cadre juridique de reconnaissance des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo, y compris aussi les parties prenantes qui se sont impliquées.
Il y a un article publié en 2017 par le journal Le Monde qui indiquait que dans la province du Sud Kivu, certaines femmes pygmées étaient victimes de coups et blessures quand elles partaient à la recherche du bois de chauffage. Avec cette nouvelle réglementation en RDC, quels sont vos différents espoirs par rapport à la lutte contre la criminalisation?
Oui, c'est important de le savoir que la question de la discrimination ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, en premier lieu, c'est une manière de faire taire donc certaines personnes usent de leur pouvoir, que ce soit économique, que ce soit légal, que ce soit politique, pour ne pas accepter que les gens s'expriment. Et tout leader qui est dans ces combats-là, quelles que soient les raisons, il est victime de la criminalisation. Et pour nous, les peuples autochtones, si vous voyez ces femmes-là, on ne peut pas vivre sans bois de chauffe, on ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas. Et pour nous, ça c'est un cas réellement de criminalisation, malgré les circonstances. L'important, c'était de les sensibiliser et les doter d'autres endroits où ils peuvent faire ce genre d'activités. Et pour la loi, pour nous, ça renforce d'abord notre identité qui est reconnue comme peuple autochtone pygmée en République démocratique du Congo et qui prend en compte les dispositions non contraire à la déclaration des Nations Unies des peuples autochtones, à la charte des Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi à la constitution de la République démocratique du Congo. Et si ce cadre était là, c'est sur base de l'injustice sociale qui s'est basée et on n'avait pas de référence pour faire face aux personnes qui se prenaient comme accaparateurs de nos terres, ainsi de suite. Parce que sans la terre, on perd notre culture, et dès qu'on perd la culture, on perd l'identité.
Oui, il y a une organisation survivale internationale qui a souvent défendu les droits des peuples autochtones, beaucoup plus sur leurs droits terriens. Ici, au niveau de la province du Nord Kivu, en particulier de manière générale en RDC, quelles sont souvent les difficultés auxquelles font face les peuples autochtones en matière de droits des terres ou droits fonciers?
Il y a d'abord les accaparements liés à l'exploitation minière, l'expansion des aires protégées, la création et l'expansion des aires protégées, l'exploitation forestière, et cela s'est fait sans le respect des consentements libres, préalables et informés. C'est pour cela que la loi est venue régler toutes ces questions-là pour que tous les espaces occupés par les peuples autochtones soient reconnus et que le processus de CLIP puisse être effectif.
Vous avez à un certain moment alerté sur le non-accompagnement juridique de certains hommes, certaines femmes pygmées et qui se retrouvera en difficulté dans des cachots, dans des prisons. Actuellement, avec cette loi pygmée, qu'est-ce qui est de nouveau pour vous et pour cette lutte que vous menez?
Et par rapport à la loi, c'est bien mentionné qu'on doit avoir aussi accès à la justice comme tout le monde. L'effet de stigmatisation, l'effet de discrimination, l'effet de déconsidération sociale, vraiment non plus de place. Et pour nous, c'est une valeur ajoutée par rapport à ce que on est en train de faire, parce qu'on ne fait pas seulement la sensibilisation, mais on fait des activités de terrain pour sécuriser les terres appartenant aux peuples autochtones. En plus de ça, je peux vous confirmer que la loi est rétroactive et entrée en vigueur depuis novembre. Donc, à partir de maintenant, les personnes ou les institutions en charge de l'application de la loi doivent comprendre cette loi. Et c'est ça notre mission, de faire la vulgarisation, parce qu'en République démocratique du Congo, il y a de pleines lois qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas respectées.
Vous avez souvent indiqué que certains peuples autochtones, dont les Bambouti, n'ont pas accès à des infrastructures scolaires, dont certains utilisent rien que leur langue locale pour communiquer. Et pour quelques-uns qui ont eu cette possibilité d'aller à l'école, peuvent s'exprimer dans d'autres langues. Pour cette loi, comment vous faites pour briser cette barrière linguistique dans cette dynamique de vulgarisation?
C'est juste un processus, mais j'avoue que la loi est déjà traduite en 4 langues, notamment les Chiluba, le Lingala, le Swahili et le Chikongo. Mais comme il y a d'autres personnes peut-être qui ne maîtrisent pas ces langues et qui ne maîtrisent pas le français, on est en train de raisonner comment aller au-delà pour le faire aussi en anglais, pour que ce soit bien compréhensif par d'autres parties prenantes qui ne maîtrisent pas ces langues. Pour les peuples autochtones, je ne dirais pas totalement que c'est une victoire, parce que nous avons encore un chemin à parcourir et c'est tout un processus. Il y a quelques dispositions qui nécessitent des mesures d'application qui doivent être sur lesquelles on doit travailler.
C'est par exemple?
Par exemple, l'article en lien avec l'éducation gratuite au niveau du secondaire dans les établissements publics, ça, c'est au-delà de la constitution qui indique que la gratuité de l'éducation se limite au niveau du primaire. Mais le législateur a compris que le niveau de décalage doit aller au-delà pour permettre aux enfants pygmées d'atteindre même les niveaux des diplômes d'État.
Parlez-nous un peu de votre engagement au sein du PIDEP, Chirika Labambouti. Vous êtes ainsi connu dans la vie comme Chirika Labambouti. Depuis quand vous menez cette lutte?
La lutte date de 2008, donc ça n'a pas été facile. Et le plaidoyer, c'est toujours un processus. C'est pour cela que on n'a pas croisé les bras, on ne s'est pas découragé et on s'est engagé jusqu'à l'aboutissement de la promulgation de cette loi en 2022, en juillet, par le président de la République.
Le jour de la promulgation ou même bien avant le jour de l'adoption de cette loi, qu'avez-vous ressenti en tant qu'un acteur qui lutte pour la défense des droits des peuples autochtones?
Personnellement, j'étais à l'Assemblée le jour de l'adoption et j'ai compris que c'était une des étapes qui a été franchie. On comprenait que ça devrait aussi être transmis au niveau du Sénat pour la seconde lecture et puis être analysé par la Cour constitutionnelle pour sa constitutionnalité, valider sa constitutionnalité avant sa promulgation par le président de la République. Donc pour moi, c'est vraiment un processus qui est en cours et on ne va pas baisser les bras et je suis très confiant que ça va aller parce que on ne va pas laisser le gouvernement seul. Toutes les actions dont nous allons faire en tant qu'organisation des peuples autochtones, ça devra cadrer avec cette loi. Si c'est l'éducation, il faut construire des écoles de bonne qualité et aussi influencer le calendrier scolaire parce que c'est parmi les freins de la non-scolarisation des enfants scolaires. Pendant certaines périodes, ils vont en forêt pour la collecte des produits forestiers non déniés. Et là, ils peuvent faire des semaines. Et ce qui est en contradiction avec le calendrier scolaire. C'est pourquoi on est en train de dire, oui, d'abord c'est quelque chose, mais il faut négocier sur ce qui existe.
Monsieur Diel Mochire, responsable de l'organisation PIDEP Chirika Labambouti, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast TT Amazingira.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Daniel Makassi, pour aujourd'hui, nous vous disons merci de partout où vous nous avez capté dans le monde. Portez-vous bien.